إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Aujourd'hui, on va parler de quoi ? De la condition de validité de la prière. C'est important de comprendre la définition de shart. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire un shart, une condition de validité, tu ne comprendras pas qu'est-ce qu'il en découle. Un shart, la condition, c'est si cette condition est absente, la chose qu'il conditionne est aussi absente, inexistante. Mais si cette condition est présente, ça ne veut pas dire que ce qui est conditionné est présent ou absent. Bon, c'est théorique, je vais vous expliquer. Les ablutions, par exemple, c'est une condition de la validité de la prière. Si quelqu'un a les ablutions, est-ce que ça veut dire par là que salat elle est là? Non. Ça veut juste dire que tu as une condition de validité pour pouvoir faire salat, mais ça ne veut pas dire par là que salat elle est présente. Mais si la condition est absente, la chose qui conditionne elle est automatiquement absente. Si quelqu'un n'a pas l'eau d'eau, est-ce qu'il a salat? Là. Une chose, dès qu'elle est considérée comme une condition de validité, son absence annule la prière. Et même s'il oublie, l'oubli ne pardonne pas les conditions et les piliers de la prière. Il peut pardonner des obligations. D'accord ? Les conditions de la prière. La première condition de la validité de la prière, on en a déjà parlé, c'est la connaissance que l'heure est entrée. Il faut que tu sois sûr ou presque sûr que l'heure est entrée. Le doute n'est pas suffisant. Si tu penses, tiens, à peut-être que l'heure est entrée, non, tu n'as pas le droit de prier. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans les horaires de l'Fajr et de l'Isha ? Que la base, c'est que la nuit, elle est encore présente jusqu'à que tu sois sûr que la journée est venue pour le Fajr. De même que pour l'Isha, l'heure du Maghrib est toujours présente tant que tu n'as pas une preuve que l'heure de l'Isha est entrée. Donc, l'Ilmu bi Dukhul al-Waqt, on en a parlé en long et en large. Hein, Dukhul al-Waqt, c'est quoi les horaires de chaque salat? Ça, on l'a bien expliqué. Et Dalil, c'est « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ». La salat est une, certes la prière est une prescription à des heures déterminées pour les croyants dans le sens du verset. Et tous les hadiths sahih qu'on a vu, le hadith de Jibril alayhi salam qui est venu prier et montrer les horaires de la prière au prophète alayhi salat wa salam, et les autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi nous a bien démontré les gens qui venaient poser des questions sur les horaires de la prière, alors le prophète sallallahu alayhi leur a expliqué le début et la fin de chaque heure de prière. Et on avait bien dit que la prière avant l'heure, elle n'est pas valable. Et la prière après l'heure, elle est pas valable, elle n'est pas rattrapable. Les seules raisons pour pouvoir faire la prière après l'heure, il y en a cinq. L'oubli, le sommeil, avoir perdu sa raison, une grande peur comme un temps de guerre, etc. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ghazwat al-Ahzab, la contrainte. Et la dernière, quand on réunit entre deux prières, pour les raisons qui permettent de réunir la prière. Tayyib. Deuxième short, c'est Tahara min al-Hadathayn ma'al Qudra. Le fait de se purifier des deux impuretés, le statut d'impureté et de l'impureté physique. Le statut d'impureté, le fait d'être pur, les grandes et les petites ablutions. Allah Ta'ala dit « Ayyuhalladhina amanu idha kuntum minas salati farsilu wujuhakum ila akhirih ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement: Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de l'un de vous s'il a perdu les ablutions jusqu'à qu'il fasse ses ablutions. La deuxième chose, c'est se purifier des impuretés sur ses vêtements, à l'endroit où l'on prie et sur son corps. La première chose, le corps. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit « Wa thiyabaka fatahhir » au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le fait de nettoyer le vêtement qui est au-dessus de ton corps, c'est une obligation qu'il soit pur, alors le corps, c'est encore plus obligatoire. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, quand on va aux toilettes, de se nettoyer avec de l'eau ou avec des pierres. Donc tout ça, ça prouve que c'est obligatoire de nettoyer son corps des impuretés. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à la personne qui avait du madi de nettoyer ses parties avec de l'eau. Donc tout ça, ça prouve que c'est obligatoire de nettoyer son corps. Donc, ce qui concerne le vêtement, Comme on a dit, Allah Ta'ala, il dit, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, et purifie tes vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu auparavant, quand on avait vu Fibab al-Najasa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux femmes qui avaient leurs règles, de nettoyer leurs vêtements, de les frotter du sang des règles et de bien les laver. Donc si ce n'était pas obligatoire, il n'aurait pas demandé de les frotter et de les laver. De même que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat avec ses sandales et il y avait de l'impureté et Jibril alayhi wa sallam l'a informé, il les a enlevés. Donc tout ça, ça prouve que c'est obligatoire d'avoir ses vêtements purs pour faire la prière. Et en ce qui concerne l'endroit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a's-sujud. Donc Allah Ta'ala a ordonné Ibrahim à Ismaïl de purifier cet endroit pour les gens qui font les adorations. De même, le bédouin, il est venu dans la mosquée, il a uriné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on verse un seau d'eau sur l'endroit où il a uriné. Donc si ce n'était pas obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas ordonné de faire cela. Donc, toutes ces preuves qu'on vient de voir auparavant, il y a deux manières de les comprendre. Certains considèrent que c'est une condition de validité de la prière. Et certains autres ulama considèrent que c'est une obligation, mais ce n'est pas une condition de validité. En se basant sur le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qu'on a cité auparavant. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses sandales. Si c'était une condition de validité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas pu continuer la prière. Il aurait été obligé de la recommencer depuis le début. Comme celui qui n'a pas les ablutions. Comme celui qui a prié avant l'heure. Quelqu'un qui commence la prière avant l'heure, puis après, pendant sa prière, l'heure, elle rentre. Alors cette personne, elle devra recommencer la prière. Car il n'a pas une condition de validité de la prière. Donc de même, dans ce cas-là, le fait de purifier son corps, ses vêtements et l'endroit où on prie, c'est une obligation pour celui qui est capable, bien sûr. Mais si une personne, elle a prié avec des impuretés et elle s'en est rappelée après, sa prière est valable. Et il n'a pas besoin de la recommencer. On va parler, Inch'Allah, de certains endroits où il est interdit de prier. La première chose à dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith, donc il est rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre entière a été faite pour moi, pure, et un endroit où je peux prier. Donc partout sur terre, le musulman, il peut prier. Sauf des endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier. Parmi ceux-là, les enclos des chameaux. Car il y a une personne qui a demandé dans le hadith sahih au prophète alayhi salatu wa salam, est-ce que je peux prier dans les enclos des moutons? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que je peux prier dans les enclos des chameaux? Il lui a dit non. Et dans un autre hadith, ne priez pas dans les enclos des chameaux, car ils viennent des shayatines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith sahih que les chameaux ont été créés, sont créés à la base des djinns. Et c'est pour ça que quand tu manges le chameau, tu refais le wudu quand tu manges le chameau, alhamdulillah, les djinns sont créés de feu. Donc c'est comme si on va dire ça met le feu en toi et tu vas rafraîchir ce feu là avec le wudu.
Comme quand tu es fâché, les savants recommandent de faire le wudu.
Donc tu rafraîchis le feu de shaitan par l'eau des ablutions. Deuxième endroit où il est interdit de prier, le cimetière. Il est interdit pour un musulman de prier dans un cimetière. Dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah, et c'est un hadith sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam. Toute la terre est une mosquée, on peut y prier, sauf le cimetière et al-hammam, la salle d'eau, et pas les toilettes. Il y a une différence. Parce que, anciennement, al-hammam c'était la salle d'eau, même s'il n'y a pas de toilette dedans. Une seule chose qui est permise comme prière dans les cimetières, c'est la prière de janaza. Pour une personne sur qui on n'a pas prié, ou voilà, ou si certaines personnes voulaient prier sur quelqu'un, ils n'ont pas prié dessus, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a déjà fait. Par exemple, la personne qui nettoyait la mosquée, elle est morte dans la nuit, les sahaba ils l'ont lavé, ils ont prié sur lui. Dans une version c'était un homme, dans une autre c'était une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé où est cette personne, comme s'il lui avait pas donné de valeur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait de la valeur parce qu'elle nettoyait la mosquée. Donc c'est pour montrer aussi l'importance de bien tenir la mosquée, de la nettoyer chez Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que cette personne c'était une personne importante, qu'il fallait que lui-même aille prier sur cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devant sa tombe, il a fait salat al-janaza. Donc c'est permis de faire salat al-janaza dans un cimetière ou devant la tombe de la personne en direction de la qibla bien sûr, ou bien parce qu'on n'a pas prié sur cette personne, elle a été enterrée sans qu'on fasse salat al-janaza sur elle, on peut faire salat al-janaza alors qu'elle est dans sa tombe, ou bien c'est parce que c'est une personne qui nous tient à cœur, qu'on voulait nous-mêmes prier sur elle, alors on peut aller prier sur elle, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où les shayatin ils viennent aussi. Donc tout ça c'est lié à cette illa. Wallahu a'lam. Et aussi c'est un endroit où il peut y avoir des impuretés. C'est un endroit où tu te nettoies de tes impuretés. Donc c'est pas un endroit propice à la prière. Un vestiaire c'est pas une salle de bain. Si dans le vestiaire il y a un lavabo, ce vestiaire ça reste un vestiaire, c'est pas une salle de bain. Donc on peut prier dans ce vestiaire. Parce qu'il peut y avoir des lavabos dans la cuisine. Il y a un lavabo dans le salon, il y a des gens qui ont un lavabo dans le salon pour pouvoir se laver les mains. Donc partout il y a un lavabo on peut pas prier. Non. Al-Hammam, l'endroit où on se lave, en général là où on fait des douches, où on fait le bain, ou alors, même s'il y a un seul lavabo, mais l'endroit où on se nettoie dans la maison, il y a des gens, ils n'ont pas de douche ni de bain, mais ils ont l'endroit où ils se lavent. Al-Hammam, c'est ça, c'est la salle de bain. Et le dernier endroit aussi qu'il est interdit de prier, c'est Makan Qada al-Haja, bien sûr, les toilettes. Hein? Donc c'est pour plusieurs raisons, Shayatin, ils participent, ils sont dans cet endroit, et c'est un endroit hein, d'impureté. Donc, et c'est pas un endroit où on peut évoquer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala et lire le Coran. Donc voilà. Là, c'est permis de prier dans une église. Non. Il n'y a pas de problème. Il a été même demandé aux ulama que par exemple, il y a des musulmans, c'est des chrétiens qui leur prêtent leur église pour prier. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Les ulama, ils ont dit si vous pouvez recouvrir leur statue et tout, c'est mieux. Sinon, vous pouvez même prier même avec les statues et les photos. C'est une question de niya, c'est une question qu'eux, ils adorent pas les. Juste qu'il ne faut pas qu'elles soient dans la direction de la Qibla. On se dirige pas vers par exemple une statue pour prier. Il faut qu'elles, si elles sont autour, mais elles sont pas en direction d'où on prie, ou une maqbara, hein, donc, il n'y a pas de mal, inch'Allah. Vaut mieux éviter, surtout, ça peut donner une choubha. Si par exemple un musulman rentre dans des églises, les gens, ils vont croire que nous, on pense que toutes les religions sont acceptables. Alors que chez Allah, inna dina indallahi, l'islam. Hein, donc, voilà, c'est ça le problème. Voilà, si on, par exemple, il y a beaucoup de villes en France, c'est l'église qui leur prête l'endroit pour prier, alhamdulillah, il n'y a pas de... C'est permis. Jaiz. Maintenant, on va parler d'un autre point. Quel est le statut de prier dans un vêtement volé ou acheté avec de l'argent haram? Certains ulama ils considèrent que la salat elle est invalide. De même que prier dans une maison ou dans un endroit volé ou une terre volée. Certains disent que cette salat elle est bâtile. Il y a un hadith qui est apporté dans ce sens, mais ce hadith il n'est pas sahih. Celui qui achète un vêtement avec 10 dirhams et il y a un dirham haram dedans, Allah il n'accepte pas sa salat. Tant qu'il prie avec ce vêtement, et ce hadith il est da'if, il n'est pas sahih. Mais, c'est clair que celui qui prie avec un vêtement volé, ou dans une maison volée, il est intime, il est pécheur. Mais sa salat elle est acceptée. Comme la personne qui va au hajj avec de l'argent haram. Son hajj, il est valable. Il est valable, c'est-à-dire que, religieusement parlant, il a fait hajjatul islam. C'est-à-dire que le pilier du hajj, il ne lui est plus obligatoire. C'est comme la prière qui prie, c'est la personne qui prie en faisant juste les obligations sans être concentré. Il prie comme ça, tac, 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 tac. Il a fait sa prière. Mais qu'est-ce qu'elle vaut sa prière? Ou qu'est-ce qu'Allah a accepté de sa prière et qu'est-ce qu'il va lui récompenser de sa prière? Allahu a'lam. Mais on ne peut pas dire que sa prière n'est pas valable, elle est valide. Comme la personne qui parle pendant le Jumu'ah. Ou qui joue avec les pierres pendant le Jumu'ah, ou qui regarde autre chose. Il perd la récompense du Jumu'ah, mais le fait qu'il était présent, Jumu'ah, il ne sait pas comme celui qui n'était pas à Jumu'ah. Parmi les conditions aussi de l'acceptation de la salat et de sa validité, c'est Satra ul-Awra ma'al Qudra. Après, on va voir pourquoi on dit ma'al Qudra. Cacher sa nudité quand on est capable de le faire. La preuve de cela, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Embellissez-vous quand vous allez à la prière. Kulli masjid ici, c'est le sens, c'est la salat, c'est quand vous faites salat et non pas hein, la mosquée. Et aussi le hadith de Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ta'ala il n'accepte pas la prière d'une femme pubère sauf si elle a un khimar. Donc ça prouve qu'elle doit cacher sa nudité. De même, Talama ibn al-Aqwa il a dit, j'ai dit au messager d'Allah, des fois on est en train de faire la chasse, est-ce qu'on peut faire salat dans un seul qamis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Si il n'a pas le choix, alors qu'il le prenne comme un izar et qu'il l'attache s'il faut avec une épine. Donc il lui a prouvé, il lui a ordonné de cacher donc son bas. Le izar, c'est ce qui cache du nombril jusqu'au genou. Il a été rapporté l'ijma', le consensus des savants, Ibn Abdul Barr et d'autres savants ont rapporté le consensus que c'est une obligation de cacher sa nudité pour la salat. et que celui qui ne cache pas sa nudité pendant la salat sans raison valable, alors qu'il est capable, sa salat elle est annulée. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'il est obligatoire de cacher dans la prière, pour l'homme et pour la femme. Alors là, je veux faire une petite remarque qui est très très importante, écoutez-moi bien les frères. Cette façon de parler, dire satr al-awra, c'est pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est juste un mustalah fiqhi, un mustalah que les fuqaha ils ont utilisé, qui est valable. Mais il faut savoir que l'awra, la nudité, elle est de plusieurs sortes. Il y a une nudité devant dans la prière, il y a une nudité devant sa femme, il y a une nudité devant le maharim, il y a une nudité devant le ajanib. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'il est permis de faire certaines choses dans la prière, de découvrir certains endroits dans la prière par exemple, qu'il est permis de le découvrir en dehors de la prière. Comme c'est pas parce qu'il est permis ou il est obligatoire de couvrir certains endroits de la prière qu'il est obligatoire de le couvrir en dehors de la prière. Comprenez bien ce que je vous dis. Par exemple, pour la femme, la manière dont elle doit se vêtir pour la prière, ça ne veut pas dire que ce sera la manière dont elle devra se vêtir quand elle sort dehors. La preuve, elle est seule devant Allah tabaraka wa ta'ala, son créateur, et elle doit mettre son khimar. Pourtant, son khimar, elle ne le met pas devant son frère. Et Allah, c'est son créateur. Devant son mari, elle n'a aucune aura, elle n'a rien à cacher. Devant ses sœurs, devant ses oncles, devant son père, elle peut montrer ses avant-bras, ses pieds devant ses enfants, son cou, sa tête, ses cheveux. Comme certains, ils prennent comme preuve que comme la femme dans la prière, elle se découvre le visage et les mains, alors en droit, elle peut se découvrir aussi le visage et les mains. Dans ce cas-là, on leur dit, si vous prenez ça comme qiyas, on lui dit que c'est obligatoire devant ses frères et son père de mettre le khimar, alors que c'est faux. C'est clair les frères? Donc, il y a une nudité dans la prière, il y a une nudité devant les proches, il y a une nudité devant les étrangers. Chaque chose a une règle différente. Et chacun a ses preuves du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, de ce qu'il est obligatoire à l'homme de cacher dans sa salat. Donc on a dit que déjà Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a dit khudu zinatakum 'inda kulli masjidin, ça a été rapporté dans les hadiths sahiha que ce verset a été révélé pour quelle cause? Parce que les gens tournaient autour de la Kaaba tout nus, Quraysh. Ils disaient, nos vêtements, ils sont sales, ils sont impurs. On a fait trop de péchés. Alors on va se mettre tout nu, shaitan, et leur embellir leur action. Et c'était quoi? Ils tapaient des mains et ils sifflaient. Et ils tournaient tout nu. On a vu comment le shirk, c'est idiot. Ça peut amener jusqu'à aux gens à une idiotie incroyable. Naam. Premièrement, Allah Ta'ala, il a interdit de faire cela. Car ce verset, il a été révélé pour ça. Donc le tawaf, c'est comme la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tawaf, c'est une prière. Sauf qu'on peut y parler. De même, quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on doit s'habiller dans un seul vêtement, il a dit si ce vêtement il est large, il a dit entoure-toi de ce vêtement. Mais si c'est un vêtement serré, utilise-le comme un izar, c'est-à-dire pour le bas de ton corps. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il y a entre le nombril et les genoux, ça fait partie de la nudité. Et non pas comme certains disent que la nudité c'est seulement le qubul wa dubul, que les cuisses elles font pas partie de la nudité. Là on parle de la prière. On ne parle pas en dehors de la prière. Il y a irtilaf en dehors de la prière. Mais dans la prière, les cuisses, ça font partie de la nudité, des choses à cacher. De même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, a interdit de prier les épaules nues. Alors qu'en dehors de la prière, entre les hommes, il est permis à un homme de montrer ses épaules ou son torse. Ce n'est pas interdit. Mais dans la prière, c'est interdit de prier les épaules nues. Sauf si quelqu'un n'a pas le choix. Il n'a qu'un vêtement. Il ne peut pas trouver d'autres vêtements avant que l'heure de la prière elle sorte. Alors il se cache en bas plutôt qu'en haut. Donc voilà ce qui est obligatoire à l'homme de cacher pendant sa prière. Du nombril au genou et le haut du corps avec les épaules. Ça c'est l'obligation. Mais bien sûr, plus il s'embellit pour la prière, et plus il met des bons vêtements, et plus, Inch'Allah, sa prière elle aura de la valeur. Embellissez-vous pour la prière. Donc c'est une bonne chose de s'embellir pour faire la salat, c'est-à-dire de mettre des beaux vêtements, du parfum, etc., quelque chose qui cache bien le corps. De même, il n'est pas permis de faire la prière avec un vêtement transparent, si on voit à travers les endroits qui devraient être cachés. De même qu'il est détestable de faire la prière avec des vêtements serrés. Donc quelqu'un qui fait la prière avec un pantalon serré, c'est pas normal, normalement il doit mettre quelque chose. Ou bien c'est un pantalon, un sirwal, comme ils ont dans les pays arabes là, large, qui cache les formes quand on fait ruku et sujoud, ou bien il faut qu'il mette quelque chose, ne serait-ce que quelque chose qu'il attache autour de sa taille pour cacher son derrière et son devant quand il se prosterne et il se relève. Wallahu a'lam, c'est makruh, c'est détestable de faire ça, mais sa salat sera valide. C'est la parole de la plupart des grands savants de cette époque. Wallahu ta'ala a'lam. Quant à la femme, comme on a dit dans le hadith de Aïcha, Allah ta'ala n'accepte pas la salat d'une femme pubère sauf avec un khimar, c'est-à-dire ceux qu'elle se couvre avec les cheveux. De même, la plupart des savants disent que la femme est obligée de couvrir tout son corps sauf son visage et ses mains. Et il y a ikhtilaf sur le dessus de ses pieds. Est-ce que le dessus des pieds, dans la prière, on ne parle pas d'en dehors de la prière, en dehors de la prière, c'est obligatoire qu'elle se couvre les pieds, sauf Abu Hanifa, il a dit que c'était permis, mais sahih, c'est que c'est obligatoire. C'est-à-dire que quand elle sort dehors, elle est obligée de couvrir ses pieds, on ne parle pas d'en dehors. Il n'est pas permis à une femme de marcher en claquette dehors, on voit ses pieds. Elle doit couvrir ses pieds. Hein, avec des chaussures, elle se débrouille comme elle veut. Ou là, si elle a des claquettes, il faut que sa robe, elle traîne par terre, on ne voit pas ses pieds. C'est par ça d'ailleurs, Umm Salama, elle a dit au prophète Sarasim quand il a dit Ma asfal al-ka'bayni fa huwa fi an-nar. Elle a dit Ya Rasulallah, mais on va voir nos pieds, Ya Rasulallah. Alors le prophète Sarasim il a permis aux femmes de laisser dépasser après les chevilles d'une coudée pour cacher les pieds. Donc tout ça, ça prouve bien que la femme elle est obligée de se couvrir les pieds quand elle sort à l'extérieur. D'accord? Maintenant dans la prière, est-ce qu'elle est obligée ou non? Khilaf bayn al-ulama, certains disent qu'elle est obligée. Et certains d'autres disent qu'elle n'est pas obligée. Ceux qui disent qu'elles sont obligées, elle est obligée, sont basés sur un hadith. Si cette robe, elle est longue jusqu'à qu'elle cache le dessus des pieds, alors tu peux prier avec cette robe. Mais ce hadith, certains parmi les grands muhadithines, ils l'ont da'afou, ils ont dit que c'est un hadith da'if. Donc comme ils ne se basent pas sur ce hadith, ils disent qu'il n'y a rien qui prouve que c'est obligatoire. Donc il n'y a pas de mal à ce qu'une femme prie le dessus des pieds découvert. Le plus sûr, comme il y a khilaf sur cette question, c'est qu'elle quand même qu'elle couvre ses pieds ou avec des chaussettes ou avec une robe longue qui tombe par terre, au moins qui couvre le dessus de ses pieds. Si quelqu'un, sans faire exprès, une partie de sa nudité se dévoile pendant la prière, par exemple, une femme elle fait la prière, quelques cheveux y dépassent ou une petite partie de son cou elle est découverte, est-ce que sa salat elle est sahiha ou elle est batel? Elle est sahiha. Si c'est une petite partie, sans faire exprès, ou bien c'est un court moment, il n'y a pas de mal en cela, car il a été rapporté dans un hadith sahih que Amr ibn Salama, en fait, a dit que préside la prière pour vous celui qui connaît le plus de Coran. Et il dit, c'est moi qui connaissais le plus de Coran, je présidais la prière, mais il avait un qamis tellement court que quand il se prosternait, on voyait sa nudité. Jusqu'à les femmes, elles ont dit, achetez-lui un qamis. Mais il n'a jamais recommencé sa prière et on n'a jamais dit qu'il devait refaire la prière ou que sa prière était annulée. Il n'y a rien qui dit cela. Et si quelqu'un sans faire exprès, une partie de sa nudité se découvre, sans faire exprès, sans qu'il le sache ou par ignorance, sans salat elle est sahiha, inshallah. Mais il faut qu'il fasse attention, hein. Faut pas qu'il fasse exprès, faut lui rappeler. Par exemple, comme les jeunes souvent ils prient, on voit leur dos qui se découvre, on voit la moitié de leur derrière. Ça, il faut lui dire. Si la première fois on lui dit, recommence tout le temps comme ça, alors non, là à partir de ce moment-là, hein, sa salat elle n'est plus acceptée. Parce qu'il est au courant, il n'a rien fait pour le changer. Quelqu'un par exemple, il a que des vêtements impurs. Il est dans un endroit, il ne peut pas avant que l'heure de salat sorte, avoir des vêtements purs. Il n'a pas d'eau pour pouvoir laver ses vêtements. Et les seuls vêtements qu'il a pour couvrir de son nombril à son genou, ils sont impurs. Et même pour le dessus. Il fait salat avec ses vêtements impurs, il n'y a pas de mal. Sa salat elle est sahih. Et est-ce qu'il devra la recommencer s'il trouve des vêtements purs avant la sortie de l'heure de salat? Il y a ikhtilaf entre les ulama, mais sahih, c'est que non. Parce qu'au moment où Allah Ta'ala lui a demandé de faire salat, fattakullah mastata'tum, lui il a craint Allah tant qu'il pouvait, il a fait ce que Allah lui avait ordonné à ce moment-là. Donc il n'a pas à la recommencer. On a dit que le mieux, bien sûr, c'est de s'embellir au maximum pour faire la salat et de mettre les beaux vêtements. Imagine-toi, tu te présentes devant quelqu'un. Est-ce que tu te présenterais avec ton kamis avec lequel tu dors, avec le kamis avec lequel tu... plein d'huile, froissé. Non, tu vas mettre un beau kamis. Donc tu fais pas salat avec ce kamis là. Certains ulama, par exemple en Saoudi, hein, le kamis à manches courtes, c'est le pyjama ça pour eux. Quand quelqu'un vient prier avec ça à la mosquée, il se dit ouais, tu viens prier avec ton pyjama devant Allah Ta'ala. Non, il dit il faut mettre le thawb. Tu vois, c'est le vêtement long comme ça, blanc. Hein. Donc ce que tu pourrais mettre en mettant dehors les choses qui sont acceptables, une bonne chose, tu la mets aussi dans salat, il n'y a pas de mal. Il faut savoir qu'au temps du prophète alayhi salat wa salam, vous savez qu'est-ce qui s'habillait les arabes? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde, la plupart s'habillaient quoi? Vous croyez qu'il mettait un qamis? Le meilleur vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, c'était le qamis, parce que c'est celui qui cache le mieux la nudité. Mais ils n'avaient pas, c'était cher. Qu'est-ce qu'ils mettaient ? L'izar et l'rida. C'est-à-dire comme l'ihram. C'était ça leur vêtement de tous les jours. Rida, c'est un drap qu'on met au-dessus de soi, comme ça. Avec l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, si quelqu'un d'entre vous prie qu'il mette deux vêtements, car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui mérite le plus qu'on s'embellisse pour lui. Idan, t'embellir pour salat, mettre des beaux vêtements, mettre taqiyya, parfum, ça, alhamdulillah, ça nous rajoute, inshallah, que de la valeur à ta salat. Wallahu ta'ala